Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'avoir bravé le froid et le brouillard au-dessus de la Loire pour pouvoir nous rejoindre ce matin. Nous allons parler d'une maison d'édition, la maison d'édition Anacharsis avec Franz Olivier et de l'édition de textes, en particulier de textes médiévaux, mais pas simplement des textes médiévaux, auxquels cette maison d'édition s'attache depuis maintenant 20 ans, puisque c'est une maison d'édition qui a 20 ans. Alors on est peut-être un peu loin de ce qu'on imagine ou de ce qu'on en a su être l'édition de textes médiévaux au 19e siècle, en particulier avec Léopold de Lisle et tous ceux qui ont suivi son exemple. On est dans une autre façon d'éditer des textes, non pas que ça soit moins sérieux, mais d'une certaine manière, c'est le choix des textes qui est peut-être différent. Ce sont des textes qu'on n'avait pas forcément repéré dans l'édition érudite classique du 19e et du 20e siècle, qui sont édités par cette maison d'édition sous une forme, disons, de livres plus originaux que la moyenne dans ce domaine, en l'occurrence, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis avec un travail historique qui est mené par des historiens qui préfacent à une retraduction la plupart du temps et qui préfacent ces ouvrages pour pouvoir justement leur redonner une présence dans notre société contemporaine. Franz Olivier, puisque... Alors, je suis... Claire Judith de la Rivière, maître de conférence donc, à Toulouse. C'est Toulouse-Jean Jaurès ou c'est Toulouse ? C'est Toulouse-Jean Jaurès, Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, et Franz Olivier, donc, qui a cofondé cette maison d'édition installée dans le Sud, on peut dire, et à Toulouse en particulier. Alors, pourquoi d'abord avoir choisi cette façon de faire, justement, pour peut-être renouveler la vision que l'on a de ces textes anciens ?
Alors bonjour, oui en effet on est dans le sud, ça va s'entendre un peu. On est à Toulouse et Marseille. Pour répondre à la question d'Emmanuel Laurentin, il faut remonter 20 ans en arrière, puisqu'en effet cette année on fête nos 20 ans avec Charles-Henri Lavielle qui est ici dans le public. On a fondé cette maison d'édition précisément dans l'idée de publier des sources. Des textes anciens qu'on avait croisés, nous-mêmes on a une formation d'historien chacun, et on s'était lancé dans cette entreprise avec cette idée qu'un certain nombre de textes qu'on appelle aussi des sources, alors peut-être qu'on pourra parler de la sémantique là-dessus, parce que précisément c'est ce qui nous intéressait de discuter, ces textes qu'on avait croisés dans nos travaux, dans nos recherches, pour certains, présenter des caractères littéraires qu'on a. Alors là aussi, la littérature, on peut en discuter. Alors, en tout cas, sinon littéraire, du moins dramatique. En tout cas, une certaine dimension constituée de péripéties qui nous semblait pouvoir donner à la lecture comme de la littérature en quelque sorte contemporaine. Par le biais du lointain qu'elle proposait de découvrir au lecteur. Voilà, c'était notre idée, puisqu'on avait commencé par travailler sur la Méditerranée, donc on a commencé par publier des textes byzantins, des textes catalans, qui se situent dans le cœur du Moyen-Âge, entre le Xe et le XIVe siècle. Et ce sont tous des textes qui ont cette double vertu, c'est ceux qu'on recherche, qui sont à la fois... des textes avec des caractères romanesques pour faire vite et en même temps qui ont des vertus documentaires. Et donc notre travail c'était d'essayer de se dire comment on peut publier ces textes pour les donner à lire, y compris à des amateurs, à des curieux simplement, et non pas les réserver justement à l'édition d'érudition avec un travail philologique transparent, parce qu'il y a un travail philologique sur nos textes, mais en tout cas l'idée c'était de porter ces textes-là parce qu'ils ont une dimension littéraire auprès du public et leur aspect documentaire pouvait permettre au public de rentrer dans les mondes que ces textes incarnent.
Alors pour ma part, le premier de ces textes que j'ai lu, c'est celui que on va se tutoyer, hein. Que tu as traduit du vénitien et présenté, Claire Jude de la Rivière, c'est-à-dire ces naufragés. Et effectivement, il y a tout ce que tu viens de dire, Franz, c'est-à-dire ce caractère littéraire, ce caractère documentaire à la fois, et les deux se mêlant au point qu'on lit aussi un ouvrage d'aventure, pourrait-on dire, une sorte d'aventure fantastique. Et de l'autre côté, effectivement, cela nous renseigne sur la question de la navigation à Venise. Est-ce que tu peux nous parler de Naufragés ?
Alors, Naufragés, ce sont en réalité deux récits qui racontent la même aventure qui a eu lieu en 1431. Ce sont des marins vénitiens qui partent de Crète, puisque Crète, à l'époque, est une île vénitienne, et qui ont un chargement de vin, de fromage de Crète pour aller dans les Flandres. Donc, une navigation assez classique, hein, passer Gibraltar, suivre les côtes atlantiques, et puis ensuite rentrer dans la Manche pour aller dans les Flandres. Et ils se retrouvent dans l'hiver 1431, pris dans une immense tempête qui détruit progressivement leur navire et qui les fait dériver beaucoup plus au nord. En fait, ils contournent l'Irlande par l'ouest et ils se retrouvent naufragés dans les îles Lofoten, donc au nord de la Norvège. Et ce texte, j'en avais entendu parler quand je faisais mes études de thèse à Venise, puisque c'est une histoire qui est connue par les Vénitiens, parce qu'ils disent que si la morue séchée est arrivée en Italie, donc ce qu'on appelle bacala, ce qui n'est pas la morue salée, hein, mais bien le stoccafisso en italien, c'est-à-dire cette morue qui est séchée justement dans les îles Lofoten et qui est la partie essentielle de la recette de la bacala à la vicentina, à la vicentine, c'est un peu ce qu'on appelle la brandade. C'est grâce à ces marins, c'est grâce à Pietro Querini, donc le capitaine du navire. Donc avec Charles-Henri, on faisait nos études ensemble, et Franz, on parlait de cette histoire, et vous m'aviez dit, elle est vraiment bien cette histoire, ça serait bien de la traduire. Et donc là, j'ai commencé une enquête, parce qu'en fait, cette histoire a été racontée au XVIe siècle, elle a été re-racontée au XVIe siècle par un érudit, Ramuzio, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il existait les manuscrits originaux que j'ai été chercher à la bibliothèque de la Marciana à Venise, à la bibliothèque Vaticana à Rome. Donc je suis retournée aux textes originaux pour justement trouver ces deux récits, celui du capitaine et celui de deux marins qui a été recueilli par un érudit à la fin du XVe siècle dans des conditions qu'on connaît mal. Et donc je me suis attelée à traduire ces textes avec ce souci de rendre la langue justement, qui est une langue très belle, très intéressante. C'est pas le statut est pas très clair, mais en tout cas c'est pas un procès. Et c'est ces marins qui racontent avec ces deux points de vue, le capitaine du navire qui vient de la noblesse vénitienne et les deux marins qui eux au contraire étaient dans la chiourme et qui donc articulent aussi deux points de vue sur le naufrage et sur l'aventure dans les îles Lofoten, puisque ils sont recueillis par des pêcheurs norvégiens qui les accueillent, qui les aident pendant quelques mois avant de leur donner une somme d'argent pour qu'ils puissent revenir à Venise.
Elle est bien cette histoire. Et ça, c'est peut-être le début de l'intérêt que tu portes aussi, Patrick, à ces sources particulières, c'est-à-dire ce mélange entre peut-être une documentation, comme disait Franz, et confirmé Claire, mais aussi un récit fictionnel. C'est ce qu'on trouve dans le deuxième livre de la collection que j'ai lu, c'est-à-dire la chronique de l'anonyme romain que tu as présenté. Est-ce que tu peux nous dire justement en quoi on s'interroge, d'abord, c'est un anonyme, mais on s'interroge sur le statut même d'un texte comme la chronique de l'anonyme romain qui raconte en particulier la prise de pouvoir à Rome de Colla di Rienzo.
Oui, je comprends d'ailleurs pourquoi Franz a quelques réticences à parler de source, parce que source renvoie inévitablement à un geste un peu autoritaire, retour aux sources, aride, ce qui est paradoxal quand on parle de ce qui est censé couler de source, alors que là, rien n'est évident et que, justement, s'intéresser à la fois à la tradition, c'est-à-dire ce qui nous amène le texte jusqu'à nous et nous l'amène en le déformant, et puis la langue, c'est aussi deux manières, finalement, d'opacifier, comme on dit, enfin, de compliquer, de troubler le rapport entre ces textes et nous, si bien que, effectivement, ça ne va pas de soi, ça ne coule pas de source, et le retour aux sources n'est pas un geste de désenchantement ou d'esprit de sérieux. Au contraire, ça met en œuvre l'esprit d'aventure, en fait.
Et une certaine joie aussi.
Une certaine joie, oui. J'y pense parce que j'ai lu récemment le livre d'Annette Wieworka, pardon, je digresse, mais bon, on a le temps.
Digression.
On a le temps. Où Annette Wieworka parle des qualités attendues du d'une historienne, le sérieux, la rigueur, le courage, l'humour, aussi, et elle ajoute l'esprit d'aventure. Et évidemment, dans ce catalogue, il y a des Indiens, il y a des croisés, il y a quand même beaucoup...
Il y a des chevaliers.
Il y a des naufrages, il y a des chevauchés, mais à chaque fois, effectivement, on se laisse surprendre par le texte. Alors, celui que j'ai eu l'honneur, non pas de traduire, j'en étais pas capable, mais de préfacer, tu veux que j'en dise un mot ?
Bah, bien sûr.
Alors, c'est un texte de quelqu'un qu'on appelle l'anonyme romain. Bon, c'est un quasi nom propre. C'est d'ailleurs à A qu'il est classé dans les catalogues. Ça pose d'ailleurs la question de savoir si il a été anonymisé, c'est-à-dire si on a perdu son identité ou s'il se cache, s'il voulait pas qu'on le reconnaisse. Le plus important, c'est Romain, parce qu'il écrit, et c'est là où effectivement on rejoint cette forme de cabinet des curiosités littéraires que constituent les éditions Anacharsis, un événement de langue. L'irruption dans la chronique, ça s'appelle chronique, c'est-à-dire en fait dans la manière d'écrire l'histoire en Italie, non pas de la langue vernaculaire, ça c'était déjà le cas au XIVe siècle, mais d'un dialecte, le romanesco, très râpeux, à peu près incompréhensible aux autres Italiens encore aujourd'hui, et qui est une sorte de trésor de langue, je ne sais pas si vous avez lu Carlo Emilio Gadda, l'affreux pastis de la rue des Merles, le pastitio, c'est ça, c'est-à-dire mettre plein de dialectes, plein de mots étranges, effectivement, dans une langue qui bouillonne et qui frissonne. Et c'est aussi d'ailleurs comme monument littéraire que les Italiens le lisent. Et puis, j'en parlerai tout à l'heure, mais sur ce que tu as dit, l'allure narrative, tu dis on choisit nos textes, et donc au fond ce ne sont pas des sources, ce sont des textes, pour leur capacité à ménager des surprises au lecteur. C'est un texte très étonnant qui commence comme une chronique universelle et puis qui après se laisse effectivement subjuguer par une aventure politique, celle de Colla di Rienzo, donc qui redevient strictement romaine alors qu'au début elle prétend dire le tout du monde. Mais ce que j'ai préféré dans ce texte, c'est le début, le vrai début. Est-ce que c'est parce que le texte est mutilé ? On n'en saura vraiment rien, mais ça commence comme ça. On est dans une église. En 1325, donc à hauteur d'un petit garçon, 6 ans, qui voit passer des chevaliers romains, qui a peur, c'est un fracas, on n'imagine pas au fond ce que c'est que la morgue sociale des barons romains, parce qu'à ce moment-là, ils accumulent, ils capitalisent tout ce qui peut donner du pouvoir au Moyen-Âge, la force, la brutalité, la richesse, mais aussi la papauté. Et il comprend rien, et il voit des couleurs, il entend des bruits, et il reconstitue, et plus tard, il mettra des noms sur ce brouhaha, Savelli, etc. Et donc, on rentre dans l'histoire comme on saute dans un train en marche, ce qui est toujours comme ça. C'est pour ça que ce ne sont pas des sources, c'est-à-dire qu'elles ne réordonnent pas le temps. Elles nous permettent d'y faire effraction.
Et ça permet justement ce que dit Patrick Claire de rentrer aussi sur le statut de ces textes. C'est-à-dire que ce que vous disiez de ces deux textes qui racontent la même histoire nous pose la question. Vous disiez que ce ne sont pas des sources judiciaires, par exemple, ce qui est très utile à tout historien, en particulier du Moyen-Âge. Ce sont d'autres types de sources. Mais à quoi s'attendait-on ? Pourquoi le faisait-on à ce moment-là ? C'est une question qu'on doit se poser quand on traduit comme vous et quand on met en scène et on édite un ouvrage comme celui-ci, c'est-à-dire le statut de ce qui est raconté, pourquoi c'était raconté, à qui cela a été raconté, et ça pose une vraie question.
Alors sur ces deux textes, c'est vraiment compliqué. J'avoue que je n'ai pas réussi à résoudre l'énigme. Je reste.
Mais c'était un moteur aussi d'essayer d'y arriver.
C'était un moteur, mais les archives vénitiennes, pour le coup, ont été assez avares. Ce qui ne veut pas dire que j'ai que j'ai épuisé le sujet. Je pense d'ailleurs que un jour quelqu'un s'attellera à cette question et retournera dans les archives à Venise et trouvera sans doute des documents. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments quand on va aux archives où les archives sont généreuses d'un coup, magiquement. Et juste, je le dis parce que ça m'est arrivé il y a quelques mois, j'entame un nouveau sujet de recherche sur la pollution et les déchets à Venise. Je pars aux archives pour commencer une première exploration et ça a été fabuleux. J'ai passé 10 jours à trouver des centaines et des centaines de documents. Sans m'y attendre, je pensais que j'allais devoir... Donc d'un coup, un sujet que j'étais en train de dessiner...
Un gisement,
vraiment. Chaque bousta que je demandais, je trouvais des contrats de balayeurs publics. Enfin bon, c'est un autre sujet duquel je parlerai plus tard. Mais pour vous dire que des fois, ça arrive. Querini, c'était l'inverse. J'ai pris toutes les archives des années... Comme ces deux années, 1431-1432, c'était pas très difficile. Je pouvais prendre les séries documentaires, le Sénat, le Conseil des Dix, le Collegio, pour voir s'il y avait eu des mentions, des procès de l'époque, des contrats notariés de l'époque. J'ai cherché, j'ai trouvé quasiment rien. J'ai trouvé un testament, mais qui était quand même très vague. Bon. Donc, de ce point de vue-là, ces textes, je ne sais pas très bien non plus exactement quand est-ce qu'ils ont été rédigés. Donc, il y a une tradition littéraire derrière ces textes qui m'échappe. Alors, c'est sans doute aussi intéressant de voir comment on n'est pas tous historiens de la même chose. Et effectivement, l'histoire que moi, je pratique, c'est une histoire sociale. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les gens eux-mêmes, les hommes et les femmes, de chair et d'os. Et donc, je suis plus familière de ces archives, effectivement, judiciaires, administratives, actes de la pratique, où on voit la ville de Venise exister au jour le jour. Et dans cette bibliothèque plus érudite des textes littéraires vénitiens, qui sont en général des textes, alors qui sont très bien connus, il y a toute une production littéraire à Venise dans la deuxième moitié du XVe siècle, les premières moitiés du XVIe siècle, littéraires ou des chroniques ou des annales qui ont été en général rédigées par des patriciens, donc par des nobles vénitiens qui, un peu tardivement, mais se mettent à copier la tradition humaniste, à faire eux-mêmes des recherches, à écrire des textes en latin ou en vénitien. Donc, dans cette bibliothèque-là, qui est assez bien connue, on ne trouve pas de référence à ce genre de textes. Ils sont plus vernaculaires, plus subalternes. Donc là, il y a une énigme, effectivement, que je n'ai pas encore craquée. Et peut-être qu'un jour, j'y reviendrai aussi. Je sais que des collègues ont trouvé récemment un document sur Querini. Donc, ils étaient très fiers de dire « Ah, quand on cherche, on trouve ». Bon, d'accord, mais enfin, ça reste juste un document 10 ans ou 15 ans plus tard. Donc voilà, la question justement effectivement de la source ou du texte, on voit bien ici c'est plutôt un texte qui a été produit avec une intention qui nous échappe encore partiellement.
François-Olivier, ça pose aussi la question de quand on est éditeur avec Charles-Henri, ce que vous êtes en train de faire depuis 20 ans, c'est de constituer une collection, de constituer quelque chose qui a priori à une cohérence. Mais cette cohérence, on la trouve au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a, dans les premiers temps de l'édition d'Anacharsis, il y a des choses que vous aviez envie tout de suite de publier. On ne sait jamais si on est là 20 ans plus tard. Donc, au bout du compte, il y a cette question-là. Et puis ensuite, c'est comme un puzzle qui se met en place pour donner une cohérence. C'est quoi cette cohérence, justement, de ces collections d'éditions ou de nouvelles éditions de ces récits entre fiction et documents?
Alors, en effet, peut-être pour répondre, en réalité, je devrais repartir de ce qu'on peut appeler la métaphore de la source, précisément. Donc, notre idée, c'était évidemment de donner à lire d'abord des textes qu'on avait, nous, rencontrés, qui nous avaient séduits, qui nous avaient emportés, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire cette vertu un peu à deux faces d'une même pièce, le document et le littéraire. Et par ce biais d'entrer, de proposer aux lecteurs d'entrer dans les mondes dont ces textes étaient les témoins et une sorte d'incarnation. Donc on a commencé par la Méditerranée et progressivement, en réalité, on n'avait pas de limite géographique ni chronologique.
C'est pour ça que la Chine, c'est pour ça que...
C'est pour ça que progressivement, on a effectivement rebondi d'un territoire l'autre, d'une littérature l'autre, d'une langue l'autre, puisque la plupart de ces textes sont des traductions, souvent des nouvelles traductions. Il y a quasiment aucune reprise de traduction. En fait, c'est des traductions originelles pour la plupart. Et donc, ce qui m'amène à penser, alors en vous écoutant là tout à l'heure, je me disais, il y a quelque chose de très intéressant qui est finalement, et peut-être pas évident à saisir, notamment, alors là, si on parle de circuit éditorial, c'est que chacun de ces livres, finalement, en proposant une édition de ce texte-là, la chronique de l'anonyme romain, par exemple, c'est une forme d'édition possible. Et chacun de ces titres-là, chacune de ces publications, c'est finalement aussi, d'une certaine façon, une hypothèse qui prolonge les autres. On soumet au lecteur l'hypothèse de l'édition de ce texte-là tel qu'il est ici. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de la métaphore...
Ça n'a pas vocation dans votre tête au départ à être... L'ultimate, l'édition définitive.
Exactement.
Celle dont on dira, on peut plus s'en passer, c'est celle-ci.
Exactement. Notre idée, c'est sûrement pas d'être définitif, mais c'est d'être au contraire suggestif.
Et donc, suggestif, ça veut dire être dans son temps. C'est traduire ces textes maintenant, quitte à ce que 30 ou 40 ans plus tard, ils soient considérés comme tellement de ce temps qu'on ne les lise plus de la même manière, par exemple.
Oui, mais c'est un peu le destin de toute édition de texte. C'est-à-dire qu'il y a des textes. Tu parlais de Victor Bérard, par exemple. Victor Bérard, il est extrêmement daté. L'Odyssée de Victor Bérard, c'est l'Odyssée de Victor Bérard.
Mais il avait l'intention d'être définitif. Mais...
Bien sûr. Donc le temps joue, et c'est pour ça que la question de la métaphore de la source est intéressante, parce que finalement, on est plus dans des éditions qui épouse la fluidité du temps, qui s'en servent et qui la répercutent. Et par conséquent, les livres qu'on publie sont plutôt apparentés à des rivières, peut-être. Et ces rivières convergeant vers le même lieu donnent objet, naissance à ce qu'on pourrait appeler une espèce d'océan dans lequel on se plonge. Et cet océan serait pour nous, petit à petit, morceau par morceau, de faire en fait une histoire mondiale du monde. Par les textes.
Carrément.
Alors oui, on est ambitieux, autrement on
serait pas... C'est pour les 20 ans qui viennent, ça, c'est ça.
autant que faire se peut, on essaiera de continuer pendant encore 20 ans, selon nos capacités, bien sûr, mais il est clair que c'est ça l'idée, c'est-à-dire de proposer des façons d'entrer. Alors on a traduit des textes du Nahuatl, par exemple, c'est-à-dire le texte de la légende des soleils,
texte
des
indonésien aussi,
le texte indonésien,
ah, ça,
oui, l'histoire des rois de Pasai, oui, ouais. Oui, de Sumatra, c'est la première chronique en réalité indonésienne qui a été écrite au 15e siècle sur un royaume au nord de Sumatra, qui est une sorte de légende aussi, mais qui c'est ça qui est on peut filer la métaphore encore, c'est-à-dire qu'en fait ce texte-là raconte la fondation du premier sultanat indonésien, mais il prend source dans l'histoire d'Alexandre le Grand. Voilà, et donc il y a des continuités comme ça, un peu souterraines, c'est comme on dirait aujourd'hui pour faire chic, c'est rhizomique tout ça.
Effectivement, c'est chic. Hein.
j'essaie d'être chic.
Monsieur Laurentin, bonjour. Tu voulais rebondir, monsieur Laurentin, tu ne poses pas de questions pour une fois, donc tu peux y aller.
Non, mais bon, d'abord, je voudrais. On est là pour fêter un anniversaire, hein, 20 ans, je laisserai personne dire, etc. Mais quand même, notre admiration et notre reconnaissance, c'est vrai ce que dit Franz, ça va quand même, je ne sais pas si ça dit le tout du monde, mais ça commence à en faire le tour.
Oui.
Voilà, et moi je n'avais personnellement jamais lu de texte indonésien sur le 15e siècle. Bon, et au moment où on faisait l'histoire du monde au 15e siècle, ça nous a beaucoup aidé. Voilà. Je crois que le premier que j'ai lu, mais vous m'aviez invité pour Tyran le Blanc.
Oui.
Hein ? Alors ça, c'est un roman catalan du 15e siècle, tardif, hein, donc, une sorte de dernière, voilà, du revival chevaleresque du 15e siècle. Un truc... totalement déjanté. Enfin, c'est vraiment, on ne sait pas ce qu'on lit. Et d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas ce qu'on lit, vous aviez invité, je m'en souviens, Céline Minard, qui à ce moment-là faisait aussi des faux romans de chevalerie. Voilà.
Bastard Battle, oui.
Ouais, Bastard Battle, voilà, c'est ça. Bon, c'est ça aussi anacharsis, c'est-à-dire c'est permettre au fond certaines historiennes et certains historiens qui... Alors, il faut quand même dire que ce ne sont pas des éditions critiques. Voilà, c'est pas ce qu'on appelle une édition critique. Mais c'est très bien aussi, parce que Claire, c'est une historienne de Venise, elle explique très bien comment elle trouve son texte, et d'une certaine manière, il t'accompagne. Moi, je ne suis pas un historien de Rome au XIVe siècle, ça n'a absolument rien à voir, parce que Claire invente son texte. Moi, je fais juste des claquettes sur une tradition déjà très solidement établie, et si on me demandait... Est-ce que tu veux faire une édition critique de l'anonyme romain? Ben, je dirais non, évidemment, non. Ça, c'est pas mon sujet, ça prendrait 5 ans, voilà. Donc là, ils m'ont demandé, est-ce que tu veux faire une préface? Ben, j'ai dit aussi non, hein, évidemment. Barrez-vous.
Mais leur force de conviction l'a emporté. Ouais.
Par usure, bon, voilà. Mais quand même, c'est aussi la collection des passions... des pulsions d'apprendre et de comprendre de ce qu'on appellerait des fous littéraires quand même. C'est-à-dire que à partir du moment où, je dirais même du fait de l'objet livre, de la beauté de ces ouvrages, c'est une collection, vous le savez bien, ça commence à vous poser problème, qui fait envie aux historiennes et aux historiens, qui vous proposent des trucs... tous plus déjantés les uns que les autres, et ben voilà, ça accueille aussi l'envie ou la science, parce que quand même, il faut dire que
ça, c'est quand même
il y a des trucs incroyables.
C'est un chef-d'œuvre, ça. Ouais.
C'est-à-dire que ça, la chute de Thessalonique ou Constantinople 1453, ça fait 1400 pages, c'est ça. Là, pour le coup, c'est une somme, je ne sais pas si elle est exhaustive, mais enfin, c'est pas loin. Voilà. Et donc, il y a des les sagas islandaises, vous avez quand même été aussi assez loin dans voilà, l'édition de sources qui sont quand même... voilà, il faut aller les chercher. Et donc, il faut dire aussi combien c'est ça, l'édition. C'est-à-dire qu'on a, on a un projet, mais ensuite, ce projet aimante les projets des autres.
Oui, et puis on est parfois dévié, Franz, c'est-à-dire que on n'a pas envie ou de savoir pour pouvoir aller vers là, mais il y a quelqu'un qui arrive et qui parce qu'il a vu les précédents ouvrages de la collection, vous dit à Charles-Henri ou à toi, tiens, j'aimerais bien travailler sur ça, ou c'est pas simplement de la commande, c'est aussi d'arriver de nouveaux manuscrits qui d'un seul coup augmentent, si on prend la métaphore du globe, augmentent la surface sur laquelle vous allez opérer.
Oui, parfaitement. Ça c'est Patrick a raison. En effet, il y a comme ça un effet d'aimantation qui est en train de se produire, et du coup, on a du mal à savoir comment y répondre, puisque l'appel à la curiosité qu'on avait lancé, visiblement, bon, il a fallu 20 ans, mais il a été entendu, et c'est extrêmement plaisant comme de se retrouver face à ces propositions qui nous amènent sur des terrains auxquels on n'aurait pas pensé éventuellement. Mais bon, en effet, ce qui nous anime aussi, je pense, ce sont des éditions non pas critiques. J'essayais de faire ce distinguo entre on est sérieux mais on n'est pas grave, et effectivement la joie de pouvoir aussi recevoir des propositions, la curiosité qui nous anime toujours, puis qui rebondit, parce que on pourrait s'apesantir. On a fait pas mal de textes sur les Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, qui ont fonctionné en librairie, et donc tout le monde nous dit, ah ben faites des textes sur les Indiens. Non, on ne va pas creuser. Enfin, normalement, dans l'édition, c'est ce qu'on fait. Une fois qu'on a trouvé un sillon qui marche, on le creuse et on l'épuise jusqu'à toucher le roc, quoi. Eh bien, nous, non, on rebondit encore. Je parlais tout à l'heure de fluidité. C'est aussi ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir suivre les courants éventuellement inattendus qui nous sont amenés, qui nous amènent vers l'Afrique du Sud, l'Australie. Prochainement, il y aura des plongées plus dans l'histoire de France. Enfin, on va essayer de revenir aussi à quelque chose d'un peu plus proche. Mais en tout cas, voilà, ça nous intéresse de pouvoir sillonner, en effet, le globe et les temps sans se donner de limites. En effet, c'est comme ça qu'on les reconnaît, comme disait
Claire. Claire, tu voulais intervenir?
Oui, je voulais intervenir sur cette question d'édition critique et de traduction, en fait. Effectivement, enfin, vous voyez bien la différence. Hein, une édition critique, ça serait l'idée justement de traduire un texte ou de l'éditer dans la langue originale avec une recherche des termes techniques ou des lieux ou du temps. Donc, en fait, un appareil large de notes de bas de page dans lequel on explicite le texte, hein, ce qui est effectivement une tradition en histoire médiévale en particulier. Avec l'idée de rendre accessible à nos collègues, en réalité, ces textes. Ici, c'est effectivement un projet tout à fait différent. Il ne s'agit pas du tout... On n'a pas écrit, aucun d'entre nous qui avons participé à cette collection n'avons eu en tête nos collègues. Moi, mes collègues vénétianistes n'ont pas besoin de moi pour aller chercher ces textes. Bon, à part qu'ils ne sont effectivement pas édités en langue originale. Mais enfin, bon, il suffit d'aller à la bibliothèque de la Marciana et on les trouve. Donc, n'importe quel spécialiste de Venise peut prendre un après-midi, aller à la bibliothèque et prendre le manuscrit. Donc ici, l'idée, c'était de le traduire. Et du coup, derrière le travail de traduction, s'ouvre aussi tout un travail pour l'historien. Et moi, j'ai fait une expérience intéressante, c'est que j'ai d'abord traduit ce texte en français. Et le récit qui est fait, hein, du naufrage est un récit éprouvant, puisque le navire dérive pendant des semaines et des semaines, hein, et les marins sont à bord, ils n'ont plus rien à manger, ils n'ont plus rien à boire, et puis les parties du navire se défont les unes après les autres. Et j'ai vraiment un souvenir d'être à la British Library à l'époque et de traduire ce texte avec... J'avais moi-même, je ressentais cette espèce d'angoisse, de faim, de soif. Donc il y a aussi, on devient empathique avec ces textes, on peut se le permettre. Et puis quelques années après, j'ai proposé à en fait, mon compagnon qui est italien et qui est romancier, qu'il le traduise lui-même en italien moderne. Mais lui ne comprenait pas les textes originaux qui étaient en vénitien. Il est italien, mais de Lombardie. Donc en fait, ces textes-là, il avait besoin de moi pour les comprendre. Et là... On a commencé à le traduire ensemble et ça a été assez éprouvant pour notre couple parce que j'étais pas du tout d'accord avec ses choix de traduction. Lui voulait faire une traduction littéraire, le texte le portait, donc il essayait de traduire en italien moderne. Et moi j'étais gênée parce que ce que j'ai fait là, c'était quand même une traduction dans un français très proche du vénitien. C'est-à-dire que je me suis pas laissée. Et on a vraiment, il y a eu des frictions constantes. Jusqu'à ce que j'accepte, en fait, qu'il le fasse comme il l'entendait, puisqu'en effet, c'est une traduction en italien. Et c'était intéressant de voir les choix littéraires qu'il faisait pour rendre compte d'un certain nombre, en particulier d'émotions. C'est un texte qui est plein d'émotions. La peur du naufrage, effectivement, l'angoisse de mourir, et de voir les choix qu'il pouvait faire et comment, du coup, une langue qui était celle que moi je maîtrisais, le vénitien du 15e siècle, résonnait avec l'italien du 21e, et comment, dans ses effets de traduction, ça, c'était aussi une sorte de révélateur de toute cette culture médiévale. J'essayais aussi des fois de dire non, un homme du 15e siècle ne pense pas les choses comme ça, ne les vit pas comme ça, ne les ressent pas comme ça. Et donc dans cette traduction, il y a eu aussi tout un travail d'historienne pour moi, de réflexion, de qu'est-ce que ça signifie avoir peur au Moyen-Âge, qu'est-ce que ça signifie rencontrer l'autre au 15e siècle, etc.
Et Claire, oui, Claire, si je peux me permettre, justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en tant que lecteur de ton livre, c'est vrai que c'est intéressant. On peut thématiser en disant, voilà, il y a une édition critique et savante qui s'adresse aux spécialistes et seulement aux spécialistes. Il y a une édition ouverte, généreuse, démocratique, c'est pour ça qu'on en parle à l'hôtel de ville et pas au château, qui s'adresse à tout le monde, en fait, à celles et ceux qui sont épris et de lecture et d'aventure. Mais il y a aussi, entre les deux, je dirais, une sorte d'intermédiaire de ce que j'appellerais la conversation historiographique. Parce que si un texte très savant, voilà, par exemple, pour rebondir sur Byzance ou sur le sultanat de Malacca, bon, bah, est édité avec... les rigueurs nécessaires dans une publication de l'Institut français d'Extrême-Orient, j'irai le voir sans doute si j'en ai besoin, mais je ne l'aurai pas dans ma bibliothèque. Or là, j'en ai quand même un paquet. Voilà. Et donc, ça me permet, moi personnellement, comme historien généraliste, d'alimenter la conversation. Je faisais un cours il y a deux ans, avant le Covid, au Collège de France, sur l'expérience politique, et je me suis souvenu de ton livre, je me suis souvenu du moment où, quand ils commencent à flipper, là, quand vraiment leur navire se désagrège, proprement déglingué, puisque la déglingue, c'est un terme de marine, ils commencent à tirer au sort pour savoir qui va aller dans la chaloupe et qui va aller dans l'esquive. Et je trouvais ça très intéressant parce que ça documente aussi une culture politique, et la culture politique vénitienne dont on a, voilà, sur le tirage au sort. Même si en fait on tire beaucoup au sort dans les navires, même sur le navire de Christophe Colomb, et peu importe. Donc voilà, ça permet aussi de donner des idées et des envies à d'autres lectures historiennes.
Franz ? Oui, là-dessus, oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est pas innocent non plus. Alors, il y a une entreprise éditoriale de mettre à portée du public comme ça des livres qui, d'ordinaire, alors c'est d'ordinaire restent en effet confinés dans des circuits autorisés. Là, il s'agit d'ouvrir des portes, des fenêtres, enfin de laisser rentrer le vent un petit peu là-dessus. Et en même temps, évidemment que la pratique éditoriale, j'allais dire plus technique, c'est-à-dire de publier des textes non en édition critique, mais en édition, disons, appelons ça vernaculaire, ça, et avec des textes qui ont ces deux faces vertueuses, enfin plus ou moins vertueuses, et de les proposer à lire et de les associer les uns avec les autres, finalement, c'est aussi une façon pour nous de questionner la pratique historienne, évidemment, et en tout cas de rendre possible un certain nombre de questions éventuellement nouvelles sur ce que j'appelle moi des hors-champs, c'est-à-dire la façon dont chaque titre a des capacités de refléter des nouvelles mises en perspective de questions nouvelles. Et oui, effectivement, là aussi, on est assez ambitieux. En effet, notre intention, c'était aussi d'être suggestif, de poser, je le disais, chaque livre est une hypothèse, mais du coup, chacun peut s'en emparer aussi, et de telle sorte qu'on alimente, en effet, une réflexion transversale, à la fois sur l'édition, sur l'histoire et sur la position de la question de la concomitance de l'un et de l'autre, quoi. Ça me semble assez important.
Mais, aussi. Et ça, c'est très important parce que Claire, tu es une des initiatrices du festival toulousain L'Histoire à venir, qui est un festival qui cherche à parler d'histoire autrement. Alors, on dit souvent ça autrement, mais à trouver des formes et des formats qui racontent autrement le rapport au passé. Et on voit bien qu'il y a dans la génération qui est celle-ci, celle à laquelle tu fais partie, ainsi que Patrick et puis même les initiateurs de cette maison d'édition Anacarsis, il y a cette idée qu'il faut à la fois le sérieux du travail universitaire, il ne s'agit pas de rentrer dans la novélisation façon série télé Netflix, mais il s'agit aussi de trouver d'autres moyens de toucher les publics, d'aller les chercher autrement par d'autres façons de faire, et je trouve qu'il y a comme une sorte de reflet justement entre ce travail éditorial et ce que vous avez voulu mettre en œuvre avec le Festival L'Histoire à venir.
Et Anacarsis fait partie des fondateurs de L'Histoire à venir, effectivement, parce qu'il y avait dans ce festival qui a lieu à Toulouse en mai, justement, comme tu dis, une sorte de souci qui est celui de votre maison d'édition aussi, de partager avec le public ce qu'on aime, nous, dans l'histoire. Et c'est vrai que c'est un métier, c'est une pratique. Il y a tout un aspect parfois rébarbatif, parfois difficile, parfois frustrant, comme j'en parlais tout à l'heure. Des fois, on ne trouve pas. C'est ça, la recherche. Hein, c'est trouver. Des fois, c'est ne pas trouver. Donc, être frustré de ses propres limites. Mais il y a aussi tout un plaisir. Et je crois que dans l'équipe, ce qu'on a, c'est ce plaisir de l'histoire, ce plaisir de faire de l'histoire, ce plaisir de lire les documents. Et du coup, cette volonté d'essayer de voir comment on pourrait rendre compte de cette pratique historienne, justement autrement que par de simples conférences. Et donc, en explorant les formats, c'est-à-dire travailler à partir de textes, travailler sur des documents avec le public, on essaye, je pense, de montrer ce qu'on fait, l'autre face de notre travail.
Oui, parce que Patrick parlait tout à l'heure d'exercice démocratique de l'histoire. L'exercice démocratique de l'histoire, c'est prendre en compte l'envie de connaître le processus par lequel l'historien ou l'historienne parvient à proposer des hypothèses sur le passé. Et là, c'est faire rentrer dans la coulisse d'une certaine manière, mais pas de manière complotiste comme ça peut être le cas quand on pense qu'il y a des secrets d'histoire et qu'il faut les révéler au grand public, mais plutôt d'une pratique, justement, comment on travaille et comment l'historien parvient à proposer quelque chose à ses contemporains.
C'est la question de la méthode, je pense que Patrick pourra compléter, évidemment. L'idée, c'est que l'historien et l'historienne sont en possession d'un bien très précieux qui est la méthode. C'est-à-dire que ce que nous savons, ce que nous pensons savoir, ce que nous proposons comme des hypothèses, des conclusions, vient d'une démarche scientifique, d'une méthode. Et en fait, c'est notre souhait, mais je pense que c'est notre souhait à tous qui faisons de l'histoire, celle qu'on appelle l'histoire publique, c'est-à-dire ce genre de moment, c'est justement de parler de méthode, de montrer que ce qui nous permet de faire ces hypothèses et ces propositions, voire ces conclusions, c'est le fait qu'on cherche des preuves, on cherche des données, qu'on analyse ces données, qu'on les compare avec d'autres données, qu'on les compare avec ce que nos collègues ont écrit avant nous. Et donc, montrer que cette méthode-là, en réalité, c'est une méthode qui peut aider. C'est un outil démocratique, c'est un moyen dont on peut tous s'emparer. Justement, on est tous un peu effarés par le développement de ces thèses complotistes, y compris chez nos étudiants. Enfin, c'est vrai, quand on discute avec les étudiants, on est surpris de très souvent du fait qu'ils ne sont pas capables de dire d'où vient une information, qui est la première question qu'on se pose. Qu'est-ce que cette source et d'où vient-elle ? Donc, ne serait-ce que d'inculquer cette chose, de dire, la première chose qu'on doit se demander, c'est d'où ça vient, qui l'a produit, qu'est-ce que c'est, ce qu'on appelle la nature du document. En fait, on se rend compte que cette démarche historienne, cette méthode de l'historien, c'est un vrai, c'est une ressource pour aider à la démocratie. Donc, toutes les manifestations d'histoire publique visent, je crois, à essayer de la transmettre et donc montrer des documents.
Oui, Patrick.
Ça me fait penser à l'histoire que raconte l'anonyme romain sur Colla di Rienzo. Moi, je veux bien vous la raconter,
vas-y.
Mais il me faut 3 quarts d'heure. Ça va, c'est possible.
Non, frustré,
rapidement. C'est ça. Non, si ça, c'est, je pense que ça, ça métaphorise, ça dramatise, mais aussi ça complique ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire cette puissance, disons, d'émancipation que porte l'histoire, non tant pour ce qu'elle proclame, mais pour ce qu'elle pratique. Pas parce qu'elle dirait des choses qui feraient effectivement trembler les puissants, mais parce que sa méthode même est révolutionnaire en elle-même. Bon. Il y a une révolution dans ce livre, qui est la révolution romaine. C'est ce qui fait dévier justement le texte de l'anonyme romain, parce qu'il est effectivement protagoniste, en fait, plus que témoin, mais protagoniste de la révolution de Colla di Rienzo en 1347, qui va soulever le peuple romain contre les barons, dont je vous disais tout à l'heure, la morgue et l'arrogance. Et Colla di Rienzo, c'est un notaire de faible extraction, dont l'anonyme romain dit, et on peut s'y retrouver, il vulgarisait toute écriture ancienne. Ce qui veut dire concrètement qu'il était épigraphiste, on pourrait dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il développe les inscriptions monumentales de la ville de Rome, qu'il habite, et habiter Rome au XIVe siècle, moment où effectivement, par rapport à la Rome millionnaire d'Auguste, c'est que la Rome médiévale est rétractée dans l'anse du Tibre, parcourir cette Rome-là, détruite, défaite, c'est vraiment être le piéton désolé des ruines de Rome qui disent une grandeur perdue. Qui peut être la grandeur de l'Empire, mais qui peut être aussi la grandeur de la République. Donc tout se retourne. Et justement, il y a une puissance de retournement chez Colla di Rienzo, parce qu'à un moment, il est à Saint-Jean de Latran, donc dans la basilique. Les prêtres disent la messe sur une table d'autel qui est en bronze. Et puis, comme il s'emmerde un peu, comme vous, madame, il regarde un petit peu en dessous. Voilà. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, il se rend compte que cette plaque de bronze est le remploi justement de ce qu'on appelle la loi de Vespasien, où l'empereur Vespasien affirmait qu'il détenait l'Empire, l'Imperium, en délégation du peuple romain, et donc montrait que toute souveraineté est d'origine populaire. Alors, dans un grand mouvement très spectaculaire, très mis en scène, parce que Colla di Rienzo faisait des, du stand-up, en fait, c'est-à-dire des spectacles multimédia
de l'époque.
De l'époque, avec de la peinture politique, type fresque du bon et du mauvais gouvernement, avec de la musique, avec des rituels, il se déguisait, voilà. Et il avait fait un grand cinéma, il avait retourné la loi de Vespasien, il avait littéralement renversé la table d'hôtel, en disant, voilà d'où vous venez, Romain, voilà l'histoire à laquelle vous pouvez désormais, si vous vulgarisez les écritures anciennes, prétendre.
Et vous débarrasser
des tyrans. Bah, évidemment, ça nous plaît. Justement, à l'histoire à venir, quand vous m'avez demandé de faire une conférence, hein, qui a été publiée chez Anacharsis, disons, c'est vrai, maintenant que j'y pense, j'ai repris cette histoire. Elle est trop belle. Bon, mais en même temps, je ne vais pas vous dire, Blaisoise, faisons marche vers le Conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire de Blois et renversons le tyran. Pourrait, mais le temps viendra, mais peut-être pas un dimanche, en tout cas, pas un dimanche.
D'autant qu'il en fait partie, ce Conseil scientifique. Donc ça, ça s'appellera un putsch, mais ce serait un peu différent.
C'est ce qu'on appelle une révolution, et d'autant que, justement... c'est une histoire exemplaire aussi parce qu'elle est compliquée. Et à la fin, Colla di Rienzo, ça devient un salopard de tyran.
Un tyran, voilà.
Voilà. Et donc cette puissance de révélation, ce que tu disais, on va effectivement vous dévoiler les secrets de l'histoire, c'est aussi une forme de prise de pouvoir. Alors, vous en êtes très loin, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que pratique démocratique, ça veut dire de l'histoire, ça veut dire aussi ne pas se laisser exalter par son propre geste. Et je pense que, en termes éditorial, enfin, tu le sais très bien, toute la question, au fond, c'est quelle est la bonne distance, quel est le bon périmètre. Voilà. Et jusqu'où on va, c'est pas l'hubris qui vous caractérise, hein, mais justement, voilà, on est dans une. Moi, ce que j'admire chez Anacharsis, c'est que vous vous posez la question à chaque fois de la nécessité du développement. Est-ce qu'il faut vraiment publier plus de livres? Est-ce qu'il faut vraiment que la maison d'édition, grandisse? C'est pas évident, en fait. Ça, c'est une vraie question. C'est pas, on n'est pas obligé, effectivement, de se lancer à corps perdu dans une aventure économique qui nous amènerait à envoyer toujours plus, effectivement, de signaux et publier toujours plus de livres.
Oui, ça c'est clairement le cœur de la question. Hein. C'est évident que c'est une maison d'édition, c'est aussi une entreprise. Et qu'il faut savoir mener cette entreprise en accord avec les principes qui ont conduit à sa fondation. Et donc sur un registre économique aussi. Donc c'est pour ça que nous, enfin, de fait, on est en réalité une coopérative. Une société coopérative d'intérêt collectif, plus exactement, une SIC. Bon, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus, mais en réalité, en effet, la question de savoir où s'arrêter en termes de production, en réalité, c'est aussi un positionnement face à un marché du livre. Le livre, c'est aussi une industrie, une maison d'édition, c'est une entreprise, le livre, c'est une industrie. C'est une industrie de quoi? C'est une industrie de la culture. Donc, comment est-ce qu'on fait pour marchandiser la culture? Et donc, par rapport à ça, il faut bien entendu avoir une position aussi qui soit en adéquation donc avec les convictions que l'on peut porter. Et de ce point de vue-là, en effet, on a décidé de rester dans un... périmètre assez modeste, même si ça nous conduit à quand même vivre aussi des moments compliqués, difficiles économiquement parlant, mais en même temps ça nous assure aussi la possibilité de rester sur les bases qui nous ont vu démarrer, quoi. Donc oui,
est-ce que, c'est une question que je me suis posée en réfléchissant à ce qu'on allait faire et dire ce matin. Est-ce que tu as l'impression, Franz, que cette entreprise éditoriale, qui est quand même vraiment originale, c'est le moins qu'on puisse dire, que vous avez construit donc depuis maintenant 20 ans, est copiée, intéresse les concurrents, puisque tu parles de marché, il y a forcément dans marché, il y a concurrence. Est-ce que certains des succès que vous avez pu avoir en termes d'édition donnent envie à d'autres, soit de copier, soit de s'en inspirer pour pouvoir justement traiter la question des sources, puisqu'on a commencé là-dessus, de façon différente de la façon dont elle était traitée auparavant?
Je l'ai pas vraiment constaté, ça, non.
Moi non plus, mais je me disais...
Je pense, enfin, très sincèrement, je pense que c'est un peu miraculeux que 20 ans plus tard, on soit toujours là avec ce qu'on a publié jusqu'à présent. Parce que sur le registre économique, c'est pas précisément des best-sellers, les bouquins qu'on propose, et notamment par un simple fait, mais qui là ressort de ce qu'on appelle la diffusion dans l'édition, c'est que quand on arrive avec un livre de cette collection Famagouste, les libraires, alors on le met en histoire ou en littérature. Et en fait, le choix du rayon va être déterminant pour les possibilités de vente du livre aussi.
Il faut faire une fois en histoire, une fois en littérature.
Alors, c'est évidemment ce qu'on répond tout le temps, mais les libraires étant aussi près de leurs sous, et on les comprend, ils ne vont pas commander 2 exemplaires au lieu d'un, ou ils ne vont pas 10 au lieu de 5, enfin bon.
Donc, juste si je peux dire une chose, ou en réalité, moi je pense qu'il serait bien dans les rayons voyage. Hein. Moi j'ai souvent pensé que Naufragé devrait être avec les guides de la Norvège, en fait.
Ben, en littérature, en histoire et en voyage.
S'il y a des libraires dans la salle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous en prenez 3 exemplaires de chaque.
Non, mais en dehors de ça, chaque année, je ne sais pas si vous le savez, connaissez ce chiffre-là, il se produit 70 000 nouveautés en France par an. Voilà. Et sur ces 70 000, il y en a la moitié qui sont des nouvelles éditions, l'autre moitié qui sont des rééditions. Donc ensuite, quand nous, on publie 15 titres par an, 15 à 20 titres par an, donc quand on en publie un, il va se retrouver un parmi 70 000. Voilà. Et donc, il faut savoir amener ce titre-là auprès du public, malgré cette production. Et on est dans un système éditorial productiviste qui a besoin de faire ce que j'appelle, moi, le livre en plus. C'est-à-dire que c'est un livre qui va être produit exclusivement pour générer du chiffre d'affaires de telle façon qu'on puisse absorber la masse salariale qui est le point névralgique de la de l'édition. Oui. Donc voilà, on n'est pas non plus sans connaître ce que c'est que cette industrie de la culture éditoriale, et on a des positions assez fermes là-dessus aussi. Oui.
Claire.
Ce que je trouve intéressant, c'est justement, comme je suis moi-même à Toulouse, donc je fréquente beaucoup Charles-Henri, Franz, on discute beaucoup, je suis votre catalogue depuis le début. Et souvent, on a eu des discussions, quand je trouvais des documents avec Charles en particulier, de savoir s'il fallait ou pas l'éditer. Dire, tu devrais le proposer à Famagouste. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que souvent, je répondais, mais non, c'est pas intéressant. C'est intéressant maintenant pour moi de le lire ou de te raconter ce que j'ai lu dedans, mais je crois pas que c'est un livre qui mériterait d'exister. Et des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Et du coup, ça pose aussi énormément cette question. Qu'est-ce qui mérite d'être publié, de rester dans le format livre? Parce qu'aujourd'hui, on a des milliers de possibilités grâce à Internet de publier des textes qui vont rester. On peut faire des belles éditions, bien mises en page, en PDF. Qu'est-ce qui mérite de devenir un livre, c'est-à-dire un objet qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de porter dans son sac, d'avoir à côté de son lit? Et ça, du fait de la multiplication des éditions numériques, c'est une question, j'imagine, qu'en tant qu'éditeur, vous vous posez constamment, c'est-à-dire qu'est-ce qui va devenir l'objet lui-même? Et nous, en tant qu'historiens aussi, constamment, on se pose ça. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on doit transformer en livre et qu'est-ce qui pourrait rester une trace numérique en ligne, lu et consulté par qui a besoin de le faire, et pour moi, ça reste toujours un enjeu, une réflexion à mener.
Oui, parce que, Patrick, tu réfléchis beaucoup au type de récits que l'on peut proposer, des récits contemporains ou des récits historiques que l'on peut proposer aux contemporains, justement. Et c'est vrai que c'est aussi concomitant avec cette explosion que vient de décrire Claire. Il y a 30 ans, avant le web, personne ne serait posé ce type de questions. l'édition était le débouché normal, justement, de ce type de travail. Là, maintenant, il y a des possibilités multiples, mais il y a des possibilités multiples, comme tu le fais, de monter pour raconter des histoires sur une scène. Il y a des possibilités multiples qui, d'un seul coup, ont fait exploser aussi le registre classique de l'universitaire qui parle du passé.
Oui, et ce qui, effectivement, comme tu le suggères, et comme le disait aussi Claire, peut à chaque moment poser la question de la nécessité ou de l'opportunité de la forme livre. Voilà. On peut aussi se dire que ces livres, ils sont suffisamment accessibles, peu chers aussi. C'est quand même à chaque fois une prouesse économique pour susciter ou faire espérer ou inspirer d'autres formes. Voilà, on peut imaginer que ces livres ont une vie après le livre. Mais parfois, des histoires qu'on va chercher dans les archives, comme c'est ton cas, Claire, peuvent aussi avoir une vie qui se passe à un moment donné
du livre.
De la forme livre. Voilà. Moi, ce qui me frappe, c'est que justement, on parlait de Constantinople 1453, alors ça c'est vraiment quelque chose, oui, on pourrait tous les balancer sur Internet, mais ça c'est vraiment quelque chose qui justifie et exige la forme livre, c'est-à-dire une somme comme ça qui est une anthologie, pas une anthologie, encore une fois, un catalogue exhaustif de toutes les sources qui, de part et d'autre, effectivement, d'une ville assiégée, donc côté assiégé, côté assiégeant, eh bien disent... un événement mondial de retentissement
par lequel tu ouvres d'ailleurs l'histoire du monde au XVe siècle.
Oui, et qui fait à un moment donné de Constantinople la capitale de la douleur européenne, c'est-à-dire finalement le lieu de la déploration. Ça, c'est un livre. Je veux dire, ça peut pas être autre chose qu'un livre. Vous avez fait aussi, puisque pour compléter la flibuste, je pense aussi à cette anthologie, pour le coup, rêver de soi, par Jean-Claude Schmitt, des récits de rêves médiévaux. On sait que le Moyen-Âge considérait le rêve comme une clé, la clé des songes, comme une clé de compréhension du monde. Et puis il y a aussi quelque chose, si je peux me permettre de te poser une question. Un catalogue... C'est une proposition, c'est une œuvre en soi. Notre ami Christian Torel ne cesse de le dire, libraire d'Ombre Blanche, pour rester à Toulouse. Et puis, il y a un moment, effectivement, où les livres, les nouveautés sont à plat, comme ici. Et puis, au bout d'un certain temps, toujours... trop bref pour les éditeurs, eh ben, ils vont rejoindre le fond, c'est-à-dire qu'ils vont se lever. Donc c'est le contraire de nous, quand un livre meurt, il se lève, en fait. Mais parfois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va rechercher l'histoire réactive des vieux textes, l'actualité même, parfois de manière embarrassante, de façon, je veux dire, inattendue et pas forcément souhaitée, des textes qui sont dans le catalogue et qui reviennent sur le devant de la scène. C'est le cas de Chronique de Nestor. Tu peux peut-être en dire un mot ?
Oui.
Pardon, excuse-moi.
J'ai beaucoup de débats dans la journée, je vais peut-être partir tout de suite.
tu peux t'assoupir 5 minutes. Ouais,
avec la nuit que j'ai passée,
je prends la barre. D'accord.
Je me mets en pilote automatique. Voilà. Vas-y, prends.
Oui, La chronique de Nestor. Donc, la chronique de Nestor, c'est en fait la première chronique écrite en vieux russe. C'est-à-dire la première mise à plat de l'histoire de la Russie. Or, en l'occurrence, l'histoire de la Russie, c'est l'histoire de Kiev. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Russe de Kiev, d'où est émergé quelques siècles plus tard ce qu'on appelle aujourd'hui la Russie. Alors, on avait publié ce texte-là, qui de toute façon est un texte fondateur. C'est le premier moment qui s'ancre. En plus, la chronique commence bien entendu par la Genèse, la dispersion des populations sur la surface du globe, etc. Donc, c'est une mise en ordre de l'histoire de la principauté de Kiev depuis le déluge. Et ce texte-là, donc, on l'avait publié à ce titre, c'est-à-dire un texte fondateur. Bon. On l'avait publié à ce titre il y a une quinzaine d'années. Il avait été traduit donc par Jean-Pierre Arignon et il s'intitulait, on l'avait décidé de l'intituler selon son titre vernaculaire, La chronique de Nestor. En fait, c'est le récit des temps passés, littéralement traduit depuis le vieux russe. Et on avait sous-titré ça Naissance des mondes russes. Et le livre était épuisé à un certain moment, bon, et puis on n'avait pas l'opportunité de le réimprimer, et puis là, elle est venue. Chronique de Nestor, Naissance des mondes russes, il y avait un hiatus, et effectivement, il y a un moment où quelque chose nous a rattrapés, on s'est retrouvés face à une espèce de... De fait, c'est l'histoire de la fondation de Kiev. C'est aussi l'histoire de la Russie, en quelque sorte. Mais alors, justement, qu'est-ce que c'est que la Russie? Et ce livre-là, ce qui met en question, c'est ça. Et nous, on s'est retrouvés à sous-titrer le livre, comme vous le voyez ici, « Naissance de la Russe de Kiev ». On a dû changer ça. Ensuite, on a dû aussi un petit peu négocier avec donc Jean-Pierre Arignon, le traducteur de cette œuvre-là, est décédé. Et on a dû négocier un petit peu aussi avec son épouse, puisque ce qui appartient plutôt, disons, à des circuits d'un œcuménisme russe dont on s'est un petit peu méfié, mais ça n'a pas été tout seul, cette réédition. Et en tout cas, le texte, lui, est revenu, en quelque sorte, pas sur le devant de la scène, parce que ce serait beaucoup dire, mais en tout cas, Poutine l'utilise aujourd'hui pour réclamer son droit sur l'Ukraine. Il se réclame d'un discours de Constantin Monomaque, qui était un des princes de Kiev tardif, pour revendiquer. Il y a un usage politique de ce titre-là.
Voilà. Pas l'édition Anacharsis, hein, pour
non, pas ça. Non, le texte tel que Poutine le comprend, c'est pas du tout l'édition Anacharsis. Non, je pense pas. Mais en tout cas, en effet, on s'est retrouvé face à un moment dont on ne savait pas trop que faire. Et de fait, ça illustre aussi la puissance performative dans le champ du politique de l'histoire. Putain, je dirai plus jamais une phrase comme ça.
Non. Non, mais c'est intéressant parce que c'est ce que autorise l'effet catalogue. C'est que c'est quand même de l'énergie fossile, tout ça. Donc ça, oui, ça s'est enterré. On se dit, bon, bah, franchement, Chronique de Nestor, la Russe de Kiev, voilà, c'est archéologique. Mais voilà, ça peut s'enflammer à nouveau.
C'est la même chose avec le catalanisme et Tyran le Blanc, d'une certaine manière.
Alors là, c'est toute une histoire. Tyran le Blanc a été écrit en catalan au XVe siècle à Valence. Et depuis 5 siècles, la dispute entre Barcelone, Valence et Madrid était extrêmement chaude, ce qui a fait qu'on a dû, par exemple, indiquer sur la traduction d'un texte catalan encore de valencien qui s'appelle Courriel et Guelph, qui est un récit un peu merveilleux, mais qui a été écrit à Naples, en fait, en catalan, enfin en valencien. On a travaillé avec des chercheurs de l'université de Valence, qui étaient eux-mêmes subventionnés par la généralité, et qui nous ont dit n'écrivez pas que c'est traduit du catalan, mais écrivez que c'est traduit du valencien. Alors on s'est dit bon, on va pas rentrer là-dedans, donc on a sous-titré traduit de la langue catalane. C'est toujours, effectivement, il y a des enjeux politiques comme ça qui sont ancrés dans la patrimonialisation. Et dans les usages de l'histoire, bien entendu, on est aussi confronté. Enfin, l'histoire n'est jamais innocente, hein, bien sûr.
Est-ce que vous voulez poser des questions à nos invités et discuter avec eux d'édition de textes, de sources, etc., à partir de ce catalogue qui est représenté par le catalogue d'Anacharsis, qui se sent de poser la première question, s'il y en a. Oui, monsieur. La salle est bien sonorisée, merci. Ne serait-ce que par
bonjour.
La voûte.
Je voulais vous demander en fait deux choses. La première, c'était l'origine du nom Famagouste, finalement. Vous avez, j'ai l'impression que vous êtes habitué à ces enjeux-là, puisque, rappelons-le,
c'est un défaut du présentateur. Il aurait dû faire ça normalement. Normalement, en temps normal, j'aurais d'abord dû demander qui était Anacharsis.
Nous et pourquoi bien entendu répondre.
Oui, merci, peut-être a-t-il manqué un peu de temps.
Merci pour cette question.
C'est un manque de professionnalisme, je reconnais. Vas-y, je pense.
Oui, il y a une deuxième question.
Parce que finalement, oui, c'est une ville occupée légalement, comme vous le savez, par un pays tiers. Et voilà, je suis là par hasard, je pensais qu'on allait parler des Lusignans du 15e siècle, des rois de Chypre, de Famagouste. Et par hasard, j'ai découvert votre collection, et c'est la deuxième chose que je voulais dire, que je vous félicite, parce que c'est des livres, à titre personnel, des livres de voyage. L'argument financier, il a été évoqué, et c'est des livres qui sont beaucoup moins chers, c'est-à-dire quand on est dans un marché du livre à 25 euros, l'argument financier, il est très important pour un professeur de collège. Et donc, c'est quelque chose que moi qui me plaît beaucoup. J'ai lu, je crois qu'ils sont en bas à gauche, les faux monnayeurs d'Istanbul, les captifs de Malte, les Turcs à Malte. Je crois que c'est chez vous, le captif des Tatars. Captif des Tatars ou un Allemand du 15e, une vie extraordinaire. Quoi. Et je ne sais pas si Lopez de Aguirre, c'est chez vous, c'est Jérôme Milon. La rébellion de Lopez de Aguirre en Espagne.
Oui, ça c'est Jérôme.
Voilà, je voulais vous féliciter, c'est vraiment des livres qui sortent de l'ordinaire et voilà, je suis complètement conquis à ces trucs-là.
Et puis il faut dire que, c'est vrai, il faut le rappeler, Naufragé c'est 7 euros. Hein. Donc on est quand même, on est quand même très très loin des prix de l'édition classique. C'est quand même ça. Vas-y, Franz.
Oui, alors
donc, pourquoi Famagouste ?
Oui, il va falloir peut-être s'y coller, quoi. Dire Famagouste, pourquoi Famagouste ? Effectivement, on aurait dû commencer par là. Bon, Famagouste, c'est on a choisi ce nom-là. En réalité, lorsqu'on a lancé la maison d'édition, on a commencé parce qu'ensuite on a d'autres collections, une collection essais qui se subdivise en essais anthropologie, histoire, libre pensée, puis philologie. Enfin, donc il y a d'autres, et puis on fait aussi quelques romans. Et alors pourquoi Famagouste ? Donc on a commencé sans véritablement avoir de nom de collection en tête, et puis c'est progressivement, en allant d'un titre à l'autre, qu'on s'est dit, bon là il faut quand même rationaliser un peu tout ça, c'est bien gentil, mais... Et on s'est demandé quel titre donner, et alors on a pensé à Famagouste, mais Famagouste chypriote du 14e siècle, là pour le coup, qui était en fait la ville qui était au débouché de la route de la soie, et qui était à l'ouverture... du coup, des produits de la route de la soie vers le reste de la Méditerranée à Chypre. Et donc, c'était le lieu où s'assemblaient comme ça des produits exotiques. Ils étaient ensuite retraités puis redispersés. Donc, c'était un goulot, en fait, un goulot des merveilles. Et c'est à ce titre-là qu'on a choisi d'appeler cette collection, la collection Famagouste, à l'évocation de cette ville qui, effectivement, aujourd'hui, se trouve sur la ligne verte de démarcation chypriote entre Chypre grec et Chypre turc. Voilà, c'est ça voilà l'origine du nom, mais c'était pour évoquer la profusion, la richesse de Famagouste de cette époque.
Mais ce que tu oublies de dire, c'est qu'il y a un érudit byzantin du XIIIe siècle qui disait que Famagouste, c'était Fama, la renommée, Gusto, le goût de la renommée. C'était pour ça que vous aviez vraiment appelé Famagouste, Mais on n'a pas retrouvé le manuscrit, en revanche, pour l'instant. Donc, et comme, on sait que c'est ça.
Et comme on s'amuse à le dire aussi, ça sonne un peu comme un nom de crustacé. Donc ça fait un peu envie de croquer dedans avec un peu de citron. Ou une persillade.
Une autre question, une autre remarque ?
Moi, j'en fais juste une. La véritable raison, c'est parce que Franz est un fan de Mike Brandt et que Famagouste, c'est la ville de naissance de Mike Brandt. Voilà.
Ah, mais c'est, alors là, vraiment.
Je ne sais pas d'où
c'est
ça sort.
C'est la troisième interprétation. À partir de là, il va falloir se mettre pour pouvoir...
Il fallait qu'il dise un truc.
Monsieur avait une question. Monsieur, ouais.
Bonjour, merci pour votre conférence. J'avais une question sur le rapport entre texte et source. Vous disiez que c'était, donc si j'ai bien compris, il n'y a que le texte traduit, mais en miroir, il n'y a pas l'original, le texte original. Et quelle différence vous faites entre texte et source? Parce que la source, et du coup, ça joue sur la manière aussi, j'imagine, de traduire les textes. Si on l'appréhende comme un texte ou si on va l'appréhender comme une source, c'est-à-dire la source. Pour moi, la source, c'est l'historien qui applique une sorte de régime d'historicité et qui va se dire, là, c'est une source. Et est-ce que ça joue dans la manière de traduire les textes ?
Alors, pour moi, clairement, oui, en effet. C'est-à-dire que dans mon... j'appellerais plutôt ça, effectivement, un texte. Encore une fois, en faisant cette édition-là, je ne propose pas, effectivement, une source pour faire de l'histoire. C'est-à-dire une source au sens où, en fait, un document, nous, ce qu'on trouve dans les archives, c'est pas des sources, ce qu'on trouve, c'est des documents. Et ces documents, on les considère comme des sources, c'est-à-dire la matière première sur laquelle on va faire un travail d'analyse, de comparaison, de critique. Et ici, personnellement, ce que je propose, c'est effectivement un texte traduit qui ne me semble pas pouvoir donner lieu véritablement à une étude historique au-delà de ce que disait Patrick, c'est-à-dire que de les lire en tant que nous, effectivement, par exemple, enseignants, c'est des textes qui sont très utiles pour construire un cours. Enfin, j'imagine que si vous en parliez aussi, c'est des textes qu'on va utiliser pour construire des cours, pour illustrer, pour. On peut éventuellement partir de là avec des étudiants pour travailler sur ces textes, mais en étant effectivement très au clair sur le fait que ce ne sont pas des originaux dont on aurait juste traduit le sens, justement pour permettre une étude historique. Il y a un travail de réécriture, en fait, de réécriture, ne serait-ce que pour des textes comme cela, de ponctuation, de mise en forme de paragraphes, qui, du coup, produisent aussi un autre effet de sens.
Et peut-être d'un mot, Emmanuel, juste pour... compléter ce que tu viens de dire ou rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, ça participe de ce tour du monde dont tu parlais, c'est-à-dire quand même donner à lire une bibliothèque mondiale. Alors, les sagas islandaises, on sait bien que ça fait partie de la littérature mondiale, mais voilà, tous les textes voilà, que vous sur les Indiens, il y a quand même aussi un geste de reconnaissance. Il y a aussi leur rendre le statut, la dignité,
les faire entrer, texte,
les faire entrer dans la conversation et dans la bibliothèque, c'est aussi un geste. Et juste dire, vous le savez sans doute, mais sinon je le rappelle, qu'Anacharsis est aussi l'éditeur d'Alban Bensa, de Jean Bazin, c'est-à-dire d'une certaine anthropologie. Et là, avec une anthropologie pragmatique, avec une ligne très, très forte. Et que, pour Alban Bensa, par exemple, transformer ce que d'autres auraient pu appeler source en texte, c'est-à-dire, par exemple, les chants kanak, de la révolte kanak, je le dis parce qu'Alban Bensa nous a quittés l'année dernière, c'est un geste politique très puissant.
Oui, je... Non, pardon.
Vas-y.
Non, peut-être deux mots, en effet, parce que c'est la coïncidence. Je comptais aussi évoquer les ténons, justement, cette édition de texte. Là, pour le coup, aussi pour rebondir sur votre question, c'est-à-dire que bon, c'est un texte qui a été réalisé par Alban Bensa en collaboration avec d'autres, c'est-à-dire ses informateurs, comme on appelle sur le terrain, qu'il a nommé, dont il a situé les récits, etc. Et dans ce livre-là, qui raconte la guerre de 1917, l'insurrection, la révolte kanak de 1917, de ceux qui ne voulaient plus aller en France combattre parmi les tirailleurs. Bon, il a publié de grands poèmes épiques qu'on appelle des ténons, et on a décidé, d'ailleurs de tous les textes dans ce livre-là sont en bilingue, c'est-à-dire dans la langue d'origine, le païchi, et en français. Et l'idée de cette publication, c'était aussi de permettre que ces textes-là, qui sont patrimoniaux, qui sont des textes que l'anthropologie traditionnelle aurait qualifiés de mythes, sont en réalité des sources poétiques, puisqu'ils sont, c'est une poétique extrêmement versifiée avec beaucoup de contraintes formelles dans la langue originelle, de porter ces textes-là aussi dans les écoles de formation pour les futures générations dans la langue. Voilà. Et donc, effectivement, c'était, de toute façon, ça, on s'en cache pas, on est pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, et c'était participer à cette entreprise que de publier ces textes-là sous cette forme-là, avec, en effet, Alban Bensa qui a œuvré dans ce sens-là. Et c'est un texte, c'est un livre très volumineux dans lequel il y a des textes, mais qui ont aussi qualité de source et qui ont aussi vocation pédagogique.
Monsieur, je crois que monsieur voulait poser une question.
Oui, question beaucoup plus simple. Dans le texte que vous évoquez, c'est quel type d'embarcation qui permet justement de faire ce trajet, c'est-à-dire de passer de la mer Méditerranée à la mer du Nord?
C'était des grosses nefs rondes qu'on utilisait pour naviguer en général en Méditerranée. Mais assez tôt, dès le XIIIe siècle, la navigation vers les Flandres et l'Angleterre est très classique pour les Vénitiens. Donc c'était des nefs rondes, mais comme on pratiquait le cabotage, donc on suivait les côtes, elles étaient tout à fait adaptées à cette navigation atlantique. Évidemment, elles n'auraient pas pu traverser, mais elles pouvaient facilement aller jusque ce qu'ils appellent donc, enfin la Manche, qu'ils appellent le couloir des Flandres, soit vers l'Angleterre, soit vers les ports de la mer du Nord.
Une autre remarque, une autre question?
Mike Brandt.
Rien qu'une larme dans tes yeux.
Et pourtant, je m'imagine.
En fait, ça vient de toi, le nom Famagus.
Je savais pas qu'il était natif de Famagus. Hein.
Franchement, oui, là, il y a un livre de Serge Héroldi qui raconte cette histoire-là. Et c'est vrai que c'est, là, tu vois, c'est très étonnant.
Vous savez, vraiment, Blois, c'est un endroit où on apprend des choses inattendues. Et ça en fait partie. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez aller voir sur le stand d'Anacarsis au Salon du Livre pour voir la grande variété de la collection. Et aussi, tous les livres, effectivement, dont vous parliez. C'est-à-dire les livres de recherche, d'essais historiques ou anthropologiques qui complètent effectivement tout ce travail d'édition de sources.
Il y a les catalogues sur la table au fond.
Merci à toutes et merci à tous et bonne continuation pour cette dernière journée de Blois.